Nous sommes en octobre 2013 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de l'actualité du jeu de société. Et lors du Salon d'Essonne, nous avons profité pour faire quelques rencontres. Et notamment, nous avons rencontré les auteurs et éditeurs de Time Masters, un jeu de cartes sur un concept un peu, petit peu de deck building, qui est actuellement en cours de crowdfunding sur la plateforme Ulule. Voilà, nous avons rencontré un midi à la cafette. Et ils nous ont parlé de leur projet. Ça va de, on va voir que c'est une aventure un petit peu sympathique avec qui va de l'édition, de la création du jeu à l'édition, avec tous les contacts qui sont faits à droite à gauche et qui ont, les ont aidés à avancer dans l'aventure.
Bonjour Pierre-Emmanuel, bonjour Nicolas.
Bonjour.
Vous êtes venu nous parler de Time Masters.
Exact.
Qui est votre bébé.
Oui. Tout à fait, bonjour.
Et la chose intéressante dans votre jeu, outre le jeu, c'est le mode de diffusion. Je crois que vous avez fait un Ulule, qui est toujours en cours.
Tout à fait. Jusqu'au 24 novembre.
Jusqu'au 24 novembre prochain. Donc vous pouvez becquer, allez-y, cuisiner un peu pour ce jeu. On a aussi un petit gameplay.
Tout à fait, disponible sur notre site. Vous pouvez aller chercher ou sur notre page Facebook, vous avez le lien aussi.
Mais béquer quand même. Et puis, on peut jouer sur BGA à votre jeu.
Tout à fait, mais béquer quand même.
Alors, on va recommencer. Mais béquer quand même. On va commencer depuis le début. Qui est l'auteur?
C'est moi.
Est-ce que vous êtes tous les deux le co-auteur ou comment ça se passe?
Alors, en fait, je suis l'auteur de la mécanique de base. Maintenant, on a travaillé à différentes choses ensemble avec Nicolas pour pouvoir justement régler. Petite mise au point, des cartes qui étaient broken, des choses comme ça.
Depuis le test.
Ouais, voilà.
Le tuning du jeu.
Tout à fait.
D'accord. Donc vous êtes. Ouais.
C'est surtout lui qui est l'auteur et moi j'ai vraiment plus la casquette d'éditeur.
D'accord.
Donc je dirais avec le temps, les voies se sont plus tracées comme ça et les affinités pour les deux métiers se sont faites comme ça.
Votre premier jeu?
Oui, tout à fait. Donc j'ai plusieurs prototypes, mais c'est le premier qui a abouti.
Ok. Pourquoi Ulule?
Pourquoi pas?
Tout simplement, on n'a pas tous les fonds directement et ça nous permet de proposer ça. Plutôt, je veux dire, que si on doit attendre de mettre tout de côté nous-mêmes.
Et pourquoi ne pas avoir... Alors, peut-être que tu as déjà fait ces démarches, mais pourquoi pas avoir présenté ton jeu à Asmodée, à Yellow, à d'autres?
Parce qu'on voulait garder la main mise dessus sur le thème, etc. Puisqu'on a pensé le thème en même temps que le développement de la mécanique. Donc, voilà, on voulait vraiment garder la main là-dessus.
D'accord. Ulule, c'est facile de lancer une campagne?
Non.
C'est pas compliqué en tant que tel. Par contre, il faut la faire suivre, la faire vivre. Et ça, c'est du boulot.
Et la préparation, donc ce qui est en amont, est assez, assez compliqué dans le sens où on pense à des choses. Et puis, on fait un petit projet. Et puis, on va chez quelqu'un qui l'a déjà fait. Je pense ici, entre autres, à Eric Anuiz. Flatland Games. Et puis, il dit très, très bien. Mais non. Parce que, et alors, il y a ça. Et tu dis, ah, merde, j'y ai pas pensé. Ah, zut, ok, c'est vrai. Donc on retourne, on refait sa copie. Exactement, donc on refait sa copie. Et puis ok, on fait un projet. Et puis on se rend compte aussi que d'un point de vue communication typique Baker, où je connais pas trop moi le vocabulaire, Pledger, on se dit ah on n'a pas pensé à ça, ah on n'a pas pensé à ça. Et donc on a eu la chance d'avoir Pierre-Gilles qui est un pote du coin à Bruxelles, Board Game Monkey, il a un site là-dessus. Et donc il nous a beaucoup aidé ici ces 10 derniers jours depuis qu'on l'a lancé en faisant un vrai plan de communication typique et en expliquant la mécanique du crowdfunding. Chose que voilà, c'est notre premier, donc on apprend des choses. Donc c'est pour ça qu'on est un petit peu lent à la réaction pour la présentation du tableau des bonus ou des paliers intermédiaires, etc. Parce que c'est des choses qui pour nous étaient simples ou qu'on allait diffuser, mais il s'avérait que voilà, on n'était pas dans le bon. Donc on s'est dépêché à faire quelque chose de plus convenable, de plus correct, etc. etc.
Quel est le but financier de l'idée? Combien vous demandez?
12 000.
Vous en êtes où?
Hier soir, 4905.
D'accord, donc c'est un projet qui est déjà bien avancé. Il reste encore un mois pour le finir.
Ouais, il restera 30 jours.
vraisemblablement fini, donc allez-y, je parle aux auditeurs. Il y a des projets qui ne vont pas aboutir, il y a une grande chance d'aboutir, donc si vous avez une envie de participer, ça peut être pour Time Masters.
Un petit goût trop peu d'Essonne, bah voilà, faites un petit tour par le site.
Qu'est-ce qu'on a quand on vous dise, qu'est-ce qu'on peut, faites-nous rêver un peu.
Alors, on va faire rêver un petit peu. Quand on sort un jeu de cartes, il y a une chose qui est intéressante comme goodies, c'est des cartes. Alors, ça a l'air un peu idiot, mais c'est vrai qu'on a beaucoup axé sur essayer de mettre des cartes supplémentaires. Alors, comme on a eu la gentillesse d'avoir de l'aide aussi de Trick Track, on a un goodie spécial pour Trick Track avec deux cartes spéciales, une à l'effigie de Mobs et une à l'effigie de Fall. Donc ça, c'est un premier palier, je veux dire, avant les 12 000 euros. Voilà, donc je parle de palier avant 12 000 euros.
Non, excuse-moi, oui. Les paliers, c'est le même jeu que tout le monde aura, mais qui sera plus important, avec plus de choses, en fonction de la somme que vous allez atteindre, ou alors c'est les paliers de financement qui changent.
Alors, du tout.
Il y a deux choses. Il y a différents paliers qui sont mis en place là, maintenant pour dire, écoutez, voilà, il y a eu. Petit à petit, quand on monte dans le niveau jusqu'à arriver aux 12 000, ça veut dire qu'on va... Potentiellement, c'est ça que vous nous permettez de rajouter dedans, ok. Et puis, quand on passera les 12 000, là, il y a des choses qui sont vraiment bonus, je veux dire, en plus. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que dans les petites choses qu'on va mettre comme ça, dans les paliers pour atteindre les 12 000, ce ne sera pas forcément dans le jeu qui sera en magasin.
D'accord. C'est des utilités.
Après, l'idée, l'intérêt pour que quand... Allez, je suis joueur, quel est mon intérêt d'aller acheter quelque chose via un Kickstarter ou un Ulule ? L'intérêt est que, d'une part, bon, ok, super, j'ai envie du jeu, j'ai envie qu'il existe. C'est un des intérêts. L'autre est aussi d'avoir quelque chose en plus que je n'aurais pas dans le magasin. Et les choses en plus sont effectivement cartes bonus qui ne seront pas présents en magasin. Donc tous ces paliers intermédiaires n'existeront pas plus tard. Donc par exemple au niveau des cartes pour les, je parlais de Trick Track, ce qui restera, je veux dire, sera envoyé à Trick Track et ne sera pas disponible. Eux géreront la disponibilité, je vais m'exprimer ainsi, c'est Trick Track qui aura la main mise sur la gestion de cette disponibilité. Donc, tous ceux qui auront pledgé et nous auront aidé à atteindre ces 12 000 euros pourront avoir toute une série de bonus non disponibles après. Si on dépasse les 12 000 euros, pour continuer à répondre à ta question, si on dépasse les 12 000 euros et on a mis un palier, on a mis encore deux autres paliers, un autour des 15 000 euros, et là c'est des cartes supplémentaires, donc vraiment pour compléter le jeu comme
petite extension, quoi.
Et voilà. L'extension sera uniquement disponible à ceux qui ont des cartes
là, pas forcément justement, l'extension elle sera disponible en plus si
elle sera bien sûr donnée à ceux qui ont béqué forcément ça, et elle sera probablement, alors je mets un conditionnel ici, je dis probablement, on verra si dans le commerce et sous quelle forme et à quel prix. Je précise parce que après, l'idée n'est pas de faire absolument beaucoup d'argent sur cette petite extension, cette petite carte supplémentaire qu'on met dessus, c'est pas notre but.
Mais qu'elle ne vous compte pas non plus.
Voilà, donc c'est pour ça que je mets du conditionnel et que je ne peux pas affirmer maintenant et dire voilà, je me suis trompé, donc je préfère rester dans le vague pour ça.
Dernière question avant de passer aux autres formes, enfin au print template, à la mise en ligne sur BGA. Ça passe bien avec les boutiques, le mode de distribution, vous l'avez déjà envisagé, je pense. Il n'y a pas de problème de boutiques qui disent oui, mais vous voulez nous bypasser un peu, vous voulez vendre en direct.
Alors, là, je pense que c'est Nicolas qui en dira le plus long, mais déjà, il y a effectivement des boutiques qui auraient préféré qu'on fasse un pledge pour eux, pour pouvoir directement avoir, et à un prix plus intéressant aussi. Malheureusement, c'est pas forcément toujours possible parce qu'on veut pas non plus se mettre mal avec des distributeurs éventuels. Donc voilà, on essaie de s'y retrouver un petit peu. Et le but, c'est quand même qu'on puisse sortir le jeu et qu'au final, eux, on est quand même aussi à vendre. Donc on est presque, entre guillemets, obligé de passer par là pour pouvoir leur offrir le jeu à vendre aussi. Donc voilà.
Le point de vue des boutiques vis-à-vis des crowdfunding est différent qu'on soit en France et en Belgique. Alors, je vexe personne et je veux vexer personne, mais c'est vraiment différent. C'est-à-dire que autant en Belgique, il y a des boutiques qui invitent même les pledgers à venir en boutique pledger dans leur magasin et eux-mêmes renvoient l'argent ceux qui créent le projet, et après les plaisirs reviendront chercher le boîte en boutique. Autant en France, il y a des magasins qui préfèrent ne pas vendre des jeux qui ont été sur... Donc c'est, je prends deux extrêmes pour vous dire que c'est vrai qu'en Belgique, on nous a demandé de faire un palier. On nous a pas demandé si, de manière très, très franche et directe, mais si vous faites un palier, c'est super, et on passera par... Voilà, exactement. Et de même, quand j'ai expliqué pourquoi on n'en faisait pas, on lui dit, oh bah écoutez, c'est pas grave. Et moi, je me suis arrangé avec le distributeur belge pour qu'il y ait quand même une action qui soit faite. Donc je veux en aucun cas que... un des participants dans toute la chaîne soit lésé d'une manière ou d'une autre. Je comprends que quand on bypasse en faisant un crowdfunding, on bypasse, et donc du coup comment essayer de faire autrement aussi un petit peu. C'est un petit peu notre façon de voir, de faire à chaque fois.
Bon, bah, j'ai un contre-exemple, mais c'est un peu particulier. Je pense que c'est une des meilleures boutiques de France, c'est Trop Lune à Lyon. Ils ont toujours tout et ils participent régulièrement à du crowdfunding.
Mais tout à fait.
Oui, c'est notre sponsor, ils nous donnent pas d'argent, mais je les cite.
On a plus de sponsors, on y va.
Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut pas. Je généralise pas non plus, ouais. Mais j'ai demandé des choses. Alors, je dis pas non plus qui sera le distributeur parce que j'ai pas encore signé, donc je préfère pas le dire de manière officielle. Mais c'était une chose qui était claire, c'est que non, il y aura pas de pledge pour les boutiques, en tout cas en France. Je ne pouvais pas non plus en mettre un pour les Belges en disant voilà uniquement pour la Belgique. Il y avait une espèce d'incompréhension qui risquait de passer, des explications à donner, etc. Donc autant dire non et m'arranger moi avec le distributeur belge, donc Marcus, pour dire ok, on peut faire quelque chose.
Le print and play, pourquoi ?
Ah ben tout simplement pour que les gens puissent le connaître et essayer simplement.
Alors,
il y a des retours aussi.
Je t'arrête tout de suite, justement, on est avec Alexis,
ouais.
Qui est notre monsieur print and play chez
C'est
l'expert du scalpel.
Oui, ouais. Ah, ça va.
Comment tu l'as vu toi de l'extérieur arriver ce print and play ? En tant que, donc c'est Alexis qui parle en tant qu'utilisateur.
Ouais, où est-ce que je l'ai vu ? Je ne sais plus où je l'ai vu. Je pense que c'est sur Twitter. Ben moi, le seul problème que j'ai, c'est que je savais quand il arrivait que je ne pourrais pas y jouer chez moi. Donc c'est vrai que... non, mais ma femme est très peu joueuse. Non, alors pas du tout. Non, vraiment, c'est pas du tout ça. C'est que après il y a des jeux, il y a un public pour chaque jeu. Et je n'ai pas la chance de pouvoir jouer en association. Donc typiquement, j'ai pas le temps, ça tombe sur les mauvais jours. Et du coup, je joue très peu. En ligne, du coup, j'ai joué en ligne. Mais je savais typiquement que je pourrais. Enfin, ça servait à rien. Enfin, je pouvais le faire pour m'amuser, mais je pourrais pas y jouer chez moi. Donc du coup, je l'ai pas fait.
Et ton avis sur le...
Moi, j'ai suivi un petit peu parce que quand je l'ai vu, souvent, c'est vrai qu'on a du print and play, puis la qualité. Des fois c'est super amateur et là c'est enfin, on voit que c'est du print and play qui est fait pour enfin, de qualité. Les fichiers ils font quand même une certaine taille. Celui qui a le temps, qui a le matériel et qui veut se faire lui-même son jeu d'une qualité la même qui sortira en boutique, j'ai envie de dire, avec ce qui a été fourni, il pourra. Donc c'est vraiment c'est pas du print and play amateur en disant tiens j'ai fait ça dans mon coin, vite fait, bon c'est peut-être pas top, mais hop, non j'ai enfin tout de suite c'était clair que le fichier était fait pour qu'on puisse vraiment faire un jeu de qualité. Enfin, et du coup ça fait vraiment envie parce que c'est agréable, c'est pas
un sous-jeu, quoi,
parce que enfin le print and play a souvent un peu vu comme du sous-jeu, enfin genre ah, c'est les jeux amateurs qui sont pas top, alors les gens ils passent pas trop de temps dessus. Non, là enfin clairement vous voyez le fichier, vous faites ah ouais, les images elles sont super belles, etc. Et il y a un vrai travail qui a été fait et c'est pas une version dégradée. Enfin, j'imagine que c'est la version qui est envoyée à un peu ou presque.
Alors oui, c'était pas la version
pratiquement.
C'était pas la finale. Enfin, il y a des choses qui ont évolué, des chorégraphies entre autres.
Oui, mais au niveau de la qualité, c'est pratiquement effectivement.
C'est vrai qu'il y a des gens qui vont préférer en disant ouais, mais je voudrais pas trop qu'on copie mon jeu, donc du coup, je vais balancer une version dégradée pour que ça se voit sur les cartes. Là, c'est clairement pas le cas. Et en tant qu'utilisateur, même si du coup, je ne le fais pas parce que je pourrais pas y jouer avec mon fan, si je joue pas.
C'est bien Corio, ça va évoluer.
Ouais, mais elle joue à Corio, alors là on verra l'année prochaine. Mais du coup c'est super flatteur parce qu'on se sent pas lésé, c'est vraiment. On prend ça comme un cadeau quand on suit le print and play et du coup c'est super agréable. Et ça donne envie d'encourager ce genre de pratique parce que c'est super agréable.
Pierre Emmanuel, ton approche de ça?
Moi j'avais eu la chance d'avoir le print and play de Gozu. Et j'ai trouvé
il y a toujours Romain.
Ouais, hein. Mais c'est vraiment lui qui m'a donné l'idée. Je trouvais ça génial. Parce qu'il il avait vraiment de la gueule, il a donné envie. Je veux dire, ça m'a pas empêché d'acheter le jeu après. Parce que ouais, on a envie d'avoir le beau jeu avec les jetons, les machins.
Complet aussi.
Complet, ouais. Bah, Gozmu était complet, mais. Et donc je me suis dit, bah, clairement, ça doit être le mode de distribution pour faire connaître, quoi. Pour que les gens aient envie d'y jouer, envie de l'acheter. Et donc voilà, on n'a pas mis l'intégralité des cartes dedans, et on a mis de quoi faire une partie normale, complète.
Et BGA, c'est la même envie de partager et de pouvoir...
Alors là, je vais laisser Nicolas parler.
Alors pour BGA, c'est juste que moi, je suis plus un accro effectivement du virtuel, et je trouvais que quelle est une bonne méthode pour se faire connaître en ayant un jeu qui fonctionne, et pour tous des gens aussi qui se retrouvent tout seuls ou voudront jouer à des moments... voilà, j'aime beaucoup jouer avec l'iPad, ce qui ne m'empêche pas de jouer avec des gens en vrai, dans la vraie vie. Mais c'est vrai que bon, on a une demi-heure, pourquoi pas faire une partie. Et donc du coup, j'ai découvert BGA il y a quelques temps, et j'ai trouvé que la plateforme était très très sympa. Et j'ai eu cette chance d'être mis en contact, et que le responsable, donc Grégory, a pu tester le jeu à Paris grâce à Vincent Bonnard, qui tient une grosse ludothèque. J'ai eu cette chance à Paris, et j'ai eu cette chance en fait d'avoir un contact. Et un de l'équipe de BGA, donc Pierre Céleste, merci, un fou furieux du codage, a dit ok pour le faire dans un timing super short, d'autant plus qu'il vient d'être papa. Donc ça n'a pas été facile pour gérer d'une main un clavier et d'autre main un bébé, hein. Le biberon, on ne sait pas comment il tient, mais bon, peu importe. Et donc du coup, il a réussi. Non, elle dormait, se reposait la maman. Et donc du coup, voilà, il a réussi à coder ça. Alors ça fait 10 jours qu'il est sorti à l'heure où on parle maintenant, donc fin de SN, je veux dire ça comme ça pour donner un timing. Ça fait 10 jours qu'il est sorti. En théorie, il n'y a plus ou presque plus de bugs maintenant. Donc comme toutes les adaptations, la mise en ligne, c'est une semaine, 10 jours de bugs avec du recodage derrière. Donc voilà, on était à 1000 parties il y a 2-3 jours. Donc à une semaine, on était à 1000 parties pour un jeu tout à fait inconnu. Donc les gens ont dû lire des règles qui demande encore un petit peu à être modifié au niveau du français, parce qu'on a eu des retours, et tant mieux d'ailleurs, merci de ça. Donc c'était pas facile, les gens ont découvert un jeu, découvert aussi, nous on doit s'habituer aussi à la plateforme, je veux dire, c'est autre chose que, parce que bon, la carte demande de la manipulation en main, et l'adaptation d'un jeu de cartes qui demande de la manipulation n'est pas toujours facile, donc ça rend aussi le jeu plus lent sur BGA, ce qui, par rapport à la vraie vie, on met une demi-heure la partie, sur BGA on est plus à une... Alors maintenant
c'est
les stades...
paradoxal,
tout à fait, mais parce que simplement il faut s'y habituer. Maintenant les stats diminuent, c'est-à-dire qu'on voit maintenant, après 1000 parties, donc on voit des gens, on refait les parties, on est à 3/4 d'heure par étude. J'ai pas été vérifié, depuis que je suis à SN ici, j'ai pas vérifié les chiffres, mais donc ça veut dire qu'on va arriver au stats normal et on va dépasser ça. Je veux dire, après ça va être plus rapide pour les gens, l'habitude de le faire aussi. Les bugs ont pourri un petit peu, si vous voulez, l'ambiance, mais ceux qui comprennent que c'est un nouveau jeu qui a un bug, c'est pareil pour Tolkien qui s'est lancé, c'était aussi du bug à crever, 10 saisons, n'en parlons pas. Donc voilà, donc, c'est tout à fait normal. Et beaucoup de gens ont découvert en fait le jeu via BGA, via Trick Track. Ils ont été sur BGA, ils ont joué, ils ont adoré, ils ont pledgé. Bon, voilà.
Alors, c'est quoi ce jeu,
Pierrot? C'est quoi ce jeu?
Meilleur qu'on en parle. Et...
Bah, ce jeu, donc, c'est un jeu de deck building. Donc, pour le thème, c'est un tournoi de magiciens manipulateurs de temps. Et au début du tournoi, les magiciens participants relâchent leur connaissance à travers 5 sphères de conscience. Les 5 sphères sont représentées par 5 pioches qu'on a au milieu de la table, qui ont des cartes diverses et variées. Et donc, on va tenter de récupérer ces cartes. C'est une très érudition pour récupérer des connaissances pour puisse être déclaré le maître du temps, le grand maître du temps, le meilleur magicien. Et donc ça, c'est la partie se termine quand deux pioches sont vides. Et à ce moment-là, on va compter les points pour voir donc qui est le meilleur. Et en fonction de la pioche dont elles viennent, qui sont numérotées de 1 à 5, ça vaut de 1 à 5. Mais c'est aussi la difficulté pour y accéder, puisque en fait, c'est en fonction du nombre de sorts qu'on jette sur le tour qu'on peut accéder aux sphères. Si on jette un sort, on accède à la sphère de niveau 1, deux sorts à la sphère de niveau 2. À partir de 3, on peut commencer à combiner, soit 3, soit 1 et 2. Mais on ne va jamais deux fois dans la même sphère pour récupérer. Alors, ce qui change fort par rapport au deck building, c'est que ce que vous récupérez comme carte, ça vient directement dans votre main et vous la complétez. Tout ça ne va pas à défausse, quoi, comme dans le Dominion ou autre. Et alors, les ressources sont en dehors de la main.
D'accord. Il y a des cartes de ressources qu'on a de
Non, c'est pas des cartes, c'est des jetons.
Ah d'accord.
C'est des jetons et donc vous payez, vous devez gérer ça parce que ça revient pas automatiquement à chaque tour. Après, là, on rentre plus dans le détail de la mécanique.
Et on complète sa main à la fin du tour.
Oui, c'est ce que je dis, tu défausses pas tout le tour.
Oui.
Jérémy ?
Oui, c'est pas plus simple de tuer le sorcier en face avec une boule de feu.
Ah ouais, bien sûr, mais là on est des sorciers pisse.
Ouais, justement. Non, mais je veux dire, il n'y a pas l'affrontement direct en fait, c'est ça.
Mais il y a quand même des cartes directes, c'est l'art.
Voilà, ouais, bah, je sais pas du tout.
Non, mais enfin, moi j'ai suivi les plâtres des bugs au tout début, mais on a sauté dessus parce que c'est ah, il
le
sort
BGR.
Donc, sur BGR.
C'est donc, plus facile
bah, à voilà, c'est. Donc j'ai eu, bon, moi c'est. Ça n'a pas facilité la partie, bon, je me suis fait écraser. En plus, tous les sorts justement où on devait déterminer un adversaire, j'étais le premier joueur, on ne pouvait désigner que le premier joueur comme cible. Donc forcément, je me suis pris tous les sorts de tout le monde, toute la partie.
Oh, fais ton casier
magique. Non, mais de toute façon, j'étais pas prêt.
Ce bug...
j'étais très mauvais magicien.
Alors ce bug a duré jusque. Attends, non, il y a 3 jours, 3 ou 4 jours, ce bug a duré. J'ai fait un gros warning parce que je me suis rendu compte, moi je l'ai eu ce sort-là. Je fais, mais pourquoi je peux pas embêter les autres?
Ils étaient tous désolés,
Pierre.
Oui, ils n'avaient pas le choix. Mais donc, bon, oui. Bah, passons la partie qui, en plus, sur BGA, ils sont toujours super réactifs et c'est vraiment super agréable. Mais... Donc, voilà, là, coup, ouais, franchement, si vous voulez le tester, vous pouvez y aller maintenant et il n'y a, j'imagine, aucun problème. Voilà, mais.
Un petit mot sur les illustrations, de qui elles sont ?
Ah, c'est Dimitri Pio, c'est un illustrateur de BD et accessoirement le frère de mon meilleur ami. Et donc voilà, il nous a fait un travail extraordinaire. On est vraiment tombé sous le charme. Et,
il a fait toutes les illustrations.
Ouais.
Oui, alors au-delà de ça, parce que après c'est ok, c'est un illustrateur, mais c'est pas qu'un illustrateur, c'est aussi lui qui nous a un petit peu appris comment gérer une certaine communication, comment les réseaux sociaux pouvaient être important. C'est lui aussi qui fait la mise en page. C'est lui aussi qui, par son réseau, nous a fait une avec Nicolas Blanquin qui nous a fait Nicolas Blanquin qui nous a fait une super vidéo de un teaser du jeu que disponible toujours en lien. C'est aussi lui qui a cette gentillesse que quand il nous fait une boîte qu'elle est très belle et qu'on nous dit elle est pas vendable et qu'on retourne vers lui en disant tu sais nous faire une deuxième boîte s'il te plaît parce qu'elle est très belle mais elle est pas vendable. C'est la première fois qu'il fait un jeu, donc il a aussi appris. En fait, donc ça a été une démarche collective que chacun avec ses compétences, nous du jeu et du monde du jeu, lui du graphisme et du monde du graphisme, on a mis les deux en commun et on a avancé telle une équipe. Ah, je tiens à le signaler parce que c'est beaucoup plus que l'illustration qu'il a faite, c'est vraiment nous accompagner dans un chemin que bonjour quoi. Donc voilà.
Oui, parce que nous, pour nous, l'édition c'est neuf aussi. Donc, comme lui, il était pas éditeur, mais il avait déjà contact avec les éditeurs parce qu'il fait la BD. Voilà, lui nous a appris plein de choses. Il faut faire attention à ça, il y a ça qu'il faut faire, il y a ça qu'il ne faut pas faire.
Et le format des cartes, c'est le format pas traditionnel, on va dire. Surtout pour des Belges, il y a Cartamundi chez vous. Vous choisissez le format, je sais pas, coréen, japonais.
C'est un format tarot. Hein.
Parce qu'on va les,
Les cartes
cacher
sont
ou pas enfin, on est, il y a une...
C'est 60%.
On va les mettre comme ça ou pas ?
Très grand, très grand.
Attends, alors, parce que donc le format des cartes c'est 60% actuellement.
Ouais.
Dans notre grande naïveté, voilà, on aimait bien ce format. C'était en plus c'est un format qui en main est assez assez agréable. Je veux dire voilà, c'était un petit peu le but. Après, effectivement, on nous a dit oui, mais moi je veux les sliver. Ok, pas de souci. Ah, il n'y a pas de sleeve. Donc,
de
protège-cartes.
Il y a Swan Panasia là sur le salon. Je pense que tu vas les voir. Ils penseront, ils ont déjà tous les formats. Tu n'es
pas 61 par 110.
Ah ouais.
Tu as un centimètre qui baille au-dessus.
Alors, je vais rassurer tout de suite. Quoi qu'il advienne, il y aura des sleeves. C'est-à-dire que soit on arrive à avoir des sleeves de 60 sur 100 pour notre jeu, et ce sera des sleeves ad vitam à 60 sur 100, même pour des extensions ou quoi possible. Soit on adapte la carte, et non pas avec un étirer la carte, mais on adapte la carte à faire un format qui existe en sleeve courant. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, il y aura les sleeves. Et d'ailleurs, dans un des paliers de contrepartie, on a mis des sleeves parce qu'on s'engage à avoir les sleeves. On ne sait pas encore quelle voie, c'est-à-dire qu'on profite d'ici des scènes pour voir un petit peu tout le monde, voir s'ils ont des sleeves 60 sur 100. La réponse n'est pas très positive actuellement. Et donc, si on revient avec ça comme réponse, ok, l'illustrateur a déjà donné son accord pour qu'on revoie le graphisme de toutes les cartes. Je tiens à préciser qu'il y en a quand même 56 différents, ou 55, je ne sais plus trop. 55 ou 56 différents, et il est d'accord. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura des sleeves.
Elles sont très bien, tes cartes, mais elles ne sont pas vendables. Non, mais... C'est bien ce que tu fais, mais ça ne peut pas.
Non, mais ça, je l'ai déjà fait, donc je vais trouver autre chose à un moment. Mais voilà, après, lui, par contre, c'est quelque chose qui ne le touchait pas, donc on lui a expliqué, et il a très bien compris que c'est important.
Donc, des contraintes qui sont intrinsèques au...
Exactement, jeu. Exactement. Et c'est ça, de nouveau, que je dis que c'est plus qu'un illustrateur, c'est aussi quelqu'un qui comprend que, voilà, on peut faire des erreurs, on a commis une erreur ici, on la répare. Point.
On peut faire des erreurs du moment que vous trouvez une solution.
Il y a la solution.
Ça sort quand et à quel prix?
Alors, ce qu'il y a, c'est que ça dépend si on a financement participatif ou pas.
Ouais, disons, on part du principe que vous avez.
Voilà, c'est février.
Au mieux, plus 15 000.
Février.
Et c'est pas un peu ambitieux de dire février?
Non. C'est-à-dire que.
Ok, février, vous avez noté la date. Il faut béquer et prendre en février.
Alors, j'explique pourquoi.
Ok, de toute façon, j'ai enregistré, tout va bien.
Voilà. J'explique pourquoi, c'est que d'après notre producteur, si on rend les cartes dans un certain timing et les cartes, il faut savoir que les fichiers sont faits, c'est-à-dire que on reste avec quelque chose qui est déjà fini au niveau des fiches, enfin fini entre guillemets. Je veux dire, il n'y a pas trois mois de
changer toute la taille.
Non, mais voilà, mais il n'y a pas de trois mois si vous voulez encore de travail derrière d'illustration.
2 mm de noir de chaque côté, c'est
bon. Non, ça on fait pas. Non, mais on fait pas ça.
Donc contrairement à un projet qui serait juste à l'état de prototype,
ici pas.
Vous avez les fichiers. Vous avez...
Voilà.
Je me suis indiscret de savoir par qui vous passez pour la réalisation du. C'est la Chine ou l'Allemagne?
La Chine.
Ok, non mais après ça se défend. Tout se défend. Donc,
non, c'est pas que ça se défend, c'est que simplement, en plus là, on a retrouvé aussi de nouveau quelqu'un qui a été plus que. Il s'appelle Vincent, comme ça au moins c'est dit. On n'a pas encore signé avec, mais c'est plus que de nouveau. Voilà, il est super sympa et il comprend les boards qu'on peut, il nous aide vraiment aussi.
Vous avez un appui, vous n'y allez pas tout seul.
Oui, bien sûr, on passe. Mais comme j'ai pas encore signé, je préfère ne pas dire. Mais les gens qui sont dans le milieu auront compris de toute façon. Donc.
Et nous, ça nous intéresse parce qu'on est toujours en train de se plaindre en tant que joueur du retard, de la qualité et de savoir que vous avez un contact qui va pouvoir justement vous donner le niveau de qualité que vous cherchez et qui va permettre justement de ne pas être dans le...
Alors de nouveau, après, c'est toujours des contraintes financières et budgétaires. Ceux qui ont l'occasion de toucher le proto qu'on a et qu'on ne donne pas, qu'on garde précieusement avec nous, cette qualité-là n'est juste pas vendable. Point. Donc elle n'existe pas. Voilà, trop beau, trop cher, trop. Donc on aura une qualité qui est maintenant une qualité tout à fait standard et courante dans les jeux de cartes. Donc ce sera celle-là, celle de Chine et non pas celle de l'Allemagne, comme ça on voit quoi. Après, pourquoi je dis février? Parce que voilà, le producteur nous a dit voici notre deadline, il y a 2 semaines de boulot encore au niveau mise en page, machin chouette et tout. Donc si c'est pour mi-décembre, ça peut être pour Cannes. Il faut viser Cannes en fait comme timing. Il peut avoir des retards, il pourra avoir un bug dans le système, il pourra avoir le bateau qui coule, voilà, un conteneur qui tombe à la mer, j'en sais rien, mais a priori, c'est Cannes.
On peut tout comprendre, tant que c'est expliqué, très bien votre démarche, donc il n'y a pas de souci.
Après, c'est Cannes.
Et le prix?
30.
30 euros. 30 euros pour un jeu de cartes avec 110 cartes peut-être
Non, il y a plus que ça, il y a 140 cartes dans le jeu.
Des jetons?
Il y a des jetons.
Regardez.
Non, il n'y a pas de.
Comment on joue?
Alors,
comment
tu es sûr qu'on parle du même jeu ou alors
Il n'y a pas de dés. En fait, c'est le thème de l'édition 2013, il n'y a pas de dés dans votre
jeu. Tu l'as essayé? Non. Ah ben voilà, c'est pour ça. Mais c'est pas grave, on va ranger le coup après.
Non, j'avoue, j'ai passé.
C'est pas grave.
Ok. Ben.
Alors après, si le jeu donc se fait aussi, il y aura à l'intérieur non pas un thermoformage, mais il y aura plutôt des mousses à la Nightfall. Pourquoi? Parce que vivant en appartement, je sais comment c'est difficile de stocker un petit peu toutes les petites boîtes. Surtout qu'à chaque fois qu'on me sort une extension, c'est une boîte, t'as 3/4 dedans et la boîte elle fait juste la taille de l'appart. Donc c'est un petit peu pénible. Donc ici l'idée est vraiment de mettre toutes les cartes qui pourraient sortir dedans. C'est-à-dire que voilà, on met tout dedans.
Un peu la Smash Up. Smash Up, c'est pareil, si tu mets tes boîtes, tu remplis ta moitié de la boîte.
C'est l'idée, je pense à la Nightfall plus avec le système de mousse. Oui, parce qu'en fait, c'est des systèmes de mousse à la Nightfall. Donc vous gérez vous-même où vous mettez les intercalaires, les boîtes, les machins.
Et donc je comprends que le jeu va donc vivre. Vous avez déjà des idées de.
Bah, on a des idées, on en a plein. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il faut voir d'abord l'accueil que les gens vont nous faire. C'est en fonction de ça.
C'est vraiment un jeu qui peut tout à fait évoluer sur une ou deux extensions sans problème. On ne veut pas non plus aller. En tout cas, c'est à l'heure actuelle, au moment où on vous parle, on ne veut pas faire 8 extensions. Je voulais pas le citer, mais ça revient au même. Non, mais voilà, c'est un excellent jeu.
Si
non,
vous avez de quoi faire 8 extensions de la qualité de Dominion, allez-y. Quoi.
Non, mais tout à fait. Mais ce jeu a été aussi prévu pour comme ça. Donc ici, nous, il faut dire, on a envie d'éditer d'autres jeux. Beaucoup d'autres jeux. Alors là, on est deux, je veux dire, dans l'équipe. C'est une chouette équipe, hein, on est deux. Donc, ce projet prend beaucoup de temps et on a envie d'aller vers d'autres projets. C'est pour ça aussi que je dis qu'on n'a pas l'objectif de dire on fait que ça sur 8 boîtes et puis basta. Non. On a envie aussi de faire d'autres choses, de revenir, de rajouter, voilà. Donc c'est une histoire qui va durer dans le temps, ça oui.
Très bien. Avec un peu de chance, on croise les doigts. Vous qui nous écoutez, il faut aller sur Ulule. Donc ça s'appelle Time Masters. Donc la maison d'édition, c'est Mushroom Games. Sur Ulule jusqu'au 24 novembre et puis à Cannes. Donc c'est le premier week-end de mars ou le dernier week-end de février.
Ouais, c'est dans ces zones-là.
C'est 28, je crois que c'est 28 février cette année, quelque chose comme ça.
Ouais. Voilà, donc on vous souhaite de réussir. Et puis on se donne rendez-vous là-bas.
Tout à fait, merci en tout cas de l'invitation.
Au revoir.